La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Une entrée en grande pompe dans l'hémicycle de la Chambre des représentants, suivie d'une allocution record d'1h47. Donald Trump a profité du traditionnel discours sur l'état de l'Union devant les parlementaires pour dresser, mardi 24 février, un tableau idyllique des États-Unis, un peu plus d'un an après son retour au pouvoir. Après seulement un an, je peux dire dignement et fièrement que nous avons accompli une transformation sans précédent et un redressement historique, a déclaré le président américain dans son discours de politique générale, prononcé devant un clan familial omniprésent, dont la première dame, Melanie Trump. Notre pays est de retour, l'inflation chute, les revenus augmentent vite, l'économie est florissante comme elle ne l'a jamais été. Bousculé par le Congrès, par la Cour suprême, malmené dans les sondages, menacé d'une sanction électorale en novembre lors des élections de mi-mandat qui pourrait réduire sa marge de manœuvre en cas de perte de contrôle de son parti au Parlement, Donald Trump avait fort à faire pour convaincre les Américains que l'âge d'or promis lors de son investiture est à portée de main. Économie et coût du travail, Donald Trump a dressé un bilan positif de sa politique économique, évoquant une transition sans précédent et un redressement historique du pays, même si 47% des Américains jugent que leur pouvoir d'achat s'est dégradé depuis qu'il est revenu au pouvoir en janvier 2025. Les droits de douane, le président a jugé très regrettable la récente décision de la Cour suprême invalidant une vaste partie de ses droits de douane devant trois des magistrats ayant rendu cette décision. Et enfin, les élections, à l'approche des élections de mi-mandat, Donald Trump a demandé au Congrès d'approuver sa réforme sur la fraude électorale qui exige que chaque électeur présente une pièce d'identité pour pouvoir voter. L'affaire Epstein, des survivants du trafic sexuel mis en place par le défunt pédocriminel Jeffrey Epstein, était présent dans l'Assemblée face à Donald Trump et le président n'a pas mentionné l'affaire. L'allocution du président américain aura duré 1h47. Le chef d'État a quitté le Capitole sous l'ovation des Républicains. Au sommaire de cette émission, nous recevons Quentin Guéau pour parler de sa thèse sur le droit des opérations militaires dans l'espace extra-atmosphérique. Il sera interviewé par Mathilde. Dans le Zoom, Victor Krylov est l'auteur metteur en scène de « Maintenant, je n'écris plus qu'en français ». Il sera interviewé par Adèle. Thierry nous plaisantera le Flash Info et pour les chroniques, ce sera Nordine et Finn. Mais tout de suite, c'est la grande interview de la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et aujourd'hui, nous recevons Quentin Guéau pour parler de sa thèse sur le droit des opérations militaires dans l'espace extra-atmosphérique. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Et l'interview est réalisée par Mathilde. Bonjour Mathilde, c'est à toi.
Bonjour Fabien. À qui appartient l'espace? Qu'a-t-on le droit d'y faire? Peut-on utiliser l'espace pour faire la guerre? Ce soir, nous nous intéressons au cadre légal qui régit les opérations militaires dans l'espace, mais aussi ses évolutions et ses limites. Quentin Guéau, bonsoir. Merci d'être avec nous sur la matinale. Vous êtes doctorant en droit spatial à l'Université Paris-Saclay et, comme l'a dit Fabien, vous rédigez une thèse sur le droit militaire dans l'espace. Depuis la course à l'espace qui a opposé les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide dans les années 60, on sait que les activités spatiales sont une autre façon pour les États de démontrer leur puissance, en particulier sur le plan technologique et scientifique. Ce qu'on sait moins, c'est que même si l'espace et ses corps célestes sont des territoires libres, les activités qui s'y déroulent sont réglementées. Les États ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent sous prétexte que ça n'appartient à personne. Donc il existe un droit international qui régit les opérations humaines en milieu extra-atmosphérique. Quentin Guéau, quand est né le droit de l'espace? Qu'est-ce qui a poussé les nations à encadrer leurs activités?
Bonsoir et merci de me recevoir ici pour que je puisse discuter de ma thèse, un sujet qui me prend tout mon temps depuis quelques années. Le droit spatial est né d'une nécessité dans les années 1950-1960 de réglementer les activités spatiales dans l'espace extra-atmosphérique. Dans les années 50, on se rend compte que potentiellement on peut atteindre l'espace extra-atmosphérique et autrement que uniquement pour y faire transiter des missiles. Il faut rappeler que les ancêtres des fusées, ce sont des missiles allemands nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un passé qu'on a tendance à vouloir oublier quand on est dans le secteur spatial, mais c'est important de le rappeler. Une fusée, avant tout, c'est une arme, c'est un missile. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, la guerre est interdite, mais on se rend compte qu'on peut atteindre l'espace extra-atmosphérique pour plein d'autres usages, finalement, que juste y faire transiter des missiles. En 1957, le premier satellite est envoyé dans l'espace extra-atmosphérique, un satellite soviétique, Sputnik. Ce satellite, il ne fait rien à part envoyer un bip, 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 un petit signal. Mais le fait qu'on arrive à le capter sur Terre, on se rend compte que les télécommunications par l'espace sont possibles. Et à ce moment-là, les États se disent qu'il faut peut-être réglementer les activités spatiales, sinon ça peut dégénérer en conflit très rapidement.
Alors justement, le grand public, à partir de là, a pu suivre les différentes expéditions humaines, notamment dans l'espace. C'est ce qui a créé l'ère spatiale et aussi créé une grande popularité de ces expéditions. Elles ont commencé en 1961 avec le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin, qui était le premier homme envoyé en orbite autour de la Terre. En revanche, on est beaucoup moins au fait de la militarisation de l'espace, justement le fait qu'une fusée, c'est un missile, c'est une arme. Aujourd'hui, quel type d'armes ou de matériel militaire on trouve dans l'espace ?
Alors aujourd'hui, l'espace est surtout utilisé à des fins de support militaire. Donc il y a un triptyque assez classique en militaire spatial, c'est les télécommunications, l'observation de la Terre et la géolocalisation. Les télécommunications, c'est assez classique, c'est communiquer partout sur la Terre, depuis l'espace, donc permettre des liens entre l'État qui va donner les ordres et le terrain militaire, et permettre aux armées de communiquer entre eux sur le terrain. Et ça, on a vu qu'en Ukraine, avec l'invasion russe en Ukraine, les télécommunications permettent de supporter l'armée sur le terrain, sur le front, alors même que les infrastructures de télécommunications terrestres étaient totalement hors service. Et c'est une des cibles prioritaires de la Russie au début de l'invasion, c'est de détruire tout ce qui permettait la communication sur le front. Parce qu'une armée qui ne communique pas, c'est une armée qui n'est pas efficace. Ensuite, on a l'observation de la Terre. Ça permet d'observer le territoire de n'importe quel État, ou de n'importe quel territoire, même un territoire qui n'appartient à personne, qui n'est pas un État, depuis l'espace, librement. C'est la grande nuance entre l'espace extra-atmosphérique et l'espace aérien. Quand on envoie un avion dans l'espace aérien d'un État, il faut l'autorisation de l'État survolé. Dans l'espace, on n'a pas besoin de cette autorisation. C'est le principe de liberté de l'espace extra-atmosphérique. Donc ça permet une sorte d'espionnage, et je mets ce terme entre guillemets parce qu'il n'est pas utilisé en droit international, mais ça permet un espionnage de tous les États depuis l'espace, librement. Quand on fait la guerre, c'est quand même super pratique. Et d'ailleurs, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les États-Unis, enfin les entreprises états-uniennes, ont diffusé des images des troupes russes à la frontière avec l'Ukraine pour interpeller la communauté internationale et essayer de faire pression avant que le conflit ne débute. Et ensuite, on a la géolocalisation, donc le GPS. GPS, c'est un système états-unien, mais aujourd'hui, on a d'autres systèmes européens, entre autres avec Galileo, russes, japonais, chinois. Ce système, on l'utilise nous tous les jours. Il est utilisé dans le domaine commercial par les avions, par les bateaux, par exemple. Mais sur le terrain, il est aussi utilisé à la fois pour diriger les troupes, mais aussi pour diriger les missiles. Un missile, c'est assez peu précis. Si jamais on lui met un système de géolocalisation, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Alors à la fois pour cibler réellement les vraies cibles militaires et non pas les civils, et en même temps, ça permet de réduire les coûts de la guerre.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas de combat dans l'espace, ce sont des activités support à ce qui se passe sur Terre. Donc ça ne contrevient pas, par exemple, au cadre originel qui a été posé par le traité sur l'espace en 1967. Donc pour le contexte, c'était un traité qui a été signé par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'ancienne Union soviétique. Et l'objectif au sortir de la guerre froide, c'était de s'assurer, avec toutes ces nouvelles conquêtes spatiales, que la Lune ou l'espace n'allait pas devenir un autre endroit à militariser. Donc c'était de garder ce milieu démilitarisé. Le fait qu'aujourd'hui on s'en serve pour mener des actions sur Terre, même si on ne se bat pas dans l'espace, ça ne contrevient pas au droit originel, ça ne faisait pas partie des directives.
C'est ça. Alors il y a eu quand même un débat en 1958 et 1959 sur l'utilisation militaire. Donc en 1957, le premier satellite est envoyé dans l'espace et on se rend compte du potentiel militaire de l'espace extra-atmosphérique. En 1958, donc un an après, les États-Unis envoient leur premier satellite en 1958 aussi. L'Assemblée générale des Nations unies, donc qui rassemble tous les États du monde, adopte une résolution qui précise que l'espace doit être utilisé à des fins exclusivement pacifiques. Donc là, on se rend compte que finalement, l'utilisation support de l'espace pour les activités militaires terrestres serait interdite. Et en 1959, le terme exclusivement disparaît. Donc les États se rendent compte en un an que potentiellement, les utilisations militaires de l'espace sont tellement énormes qu'on ne peut pas se passer de l'espace. En 1967, quand le traité sur l'espace est adopté, donc un traité réellement contraignant qui oblige les États, cette notion d'exclusivement pacifique disparaît. Le seul article qui parle un peu d'activité militaire, c'est l'article 4, qui interdit les armes nucléaires et de destruction massive dans l'espace. Mais mis à part ça, on a l'autorisation finalement d'utiliser librement l'espace extra-atmosphérique et donc aussi pour des activités militaires. Et ce terme « exclusivement » a tendance à réapparaître ces dernières années dans les résolutions de l'Assemblée générale. Je ne comprends pas encore pourquoi, mais c'est intéressant d'un point de vue sémantique, surtout en droit où chaque mot individuellement peut avoir des conséquences juridiques. Il réapparaît alors que les États n'ont jamais autant militarisé l'espace extra-atmosphérique. C'est un peu mystérieux.
Alors, justement, même s'il existe un droit international, on voit qu'il évolue aussi en fonction de l'arrivée des nouvelles technologies. On sait que ce droit, il n'est pas inviolable. D'ailleurs, c'est le cas sur Terre. Par exemple, Donald Trump a pu enlever et placer en détention le président du Venezuela, Nicolas Maduro. Donc, c'était en début janvier 2026, ce qui va à l'encontre de la Charte des Nations Unies. Qu'est-ce qui permet réellement de faire respecter le droit spatial ? Est-ce qu'il est vraiment contraignant, au final, aujourd'hui ?
Tout internationaliste déteste un peu cette question. Le droit international, il est contraignant en tant que tel. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément respecté. Ça ne veut pas dire qu'il y a des sanctions forcément adaptées s'il n'est pas respecté. En termes de droit spatial, c'est les mêmes mécanismes, on va dire, qu'en droit international public. C'est-à-dire que si un État ne respecte pas le droit international, on peut engager sa responsabilité devant la Cour internationale de justice pour faire reconnaître sa culpabilité et lui imposer un comportement. Le Conseil de sécurité peut aussi intervenir. Le Conseil de sécurité est donc composé de 15 membres, 5 membres permanents qui sont les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Donc on voit déjà qu'entre ces 5 membres, il y a les trois superpuissances avec Chine, Russie, États-Unis, et ces États n'arrivent pas à s'entendre. Donc ce qui évite finalement toute action du Conseil de sécurité en cas de violation du droit international et donc du droit de l'espace. Donc aujourd'hui, finalement, le seul mécanisme qui permet le respect du droit international dans l'espace, c'est le fait que toutes les activités spatiales sont interconnectées entre elles grâce au mécanisme des orbites, finalement. Quand on envoie un objet dans l'espace, il tourne autour de la Terre, tout le temps, jusqu'à temps de réentrer dans l'atmosphère ou d'aller sur une orbite cimetière, on va dire. Et quand on crée un débris dans l'espace, ce débris va tourner autour de la Terre. L'exemple typique, c'est le film Gravity. La Russie détruit un de ses propres satellites, ça génère un nuage de débris qui va endommager une station spatiale et qui va tuer des astronautes finalement. Et donc, un État qui génère des débris dans l'espace en faisant la guerre par exemple, il met en danger ses propres activités spatiales. Donc il n'a aucun intérêt à faire ça. Et c'est ce qui maintient, on va dire, la paix dans l'espace pour l'instant.
Et justement, est-ce qu'il y a une directive par rapport à la protection des civils en cas de non-responsabilité, si les États ne font pas en sorte de protéger leur matériel, ils ne font pas en sorte de prévoir ce qui pourrait se passer si ça retombe sur Terre ?
En cas de retombée sur Terre, effectivement, les États sont responsables de leurs activités, tant activités nationales que activités privées. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. On parle souvent dans les médias des acteurs privés. Elon Musk, par exemple, qui possède plus de la moitié des objets spatiaux. Les États sont responsables pour ces activités privées et publiques. Et donc, effectivement, d'accord, si un objet retombe sur Terre, c'est le principe de la responsabilité sans faute. Peu importe s'il y a une faute ou pas à l'origine des débris, l'État est responsable, doit rembourser. Et si jamais c'est un dommage causé dans l'espace, l'État est responsable pour faute. Donc, il faut prouver la faute avant la responsabilité.
Merci beaucoup. On va faire une petite pause et on va écouter Rigide par Rosa Anshoes. Switching on the highest drawing shadow and it's getting louder. There's innards on the wet floor and your erection in the nightmare. Cause sweating in the white sheets, sticking to your body, sticking to your body. Flies staring at the light source, cremating under high strung, and you shudder when you look at them. But it hasn't felt like something
to the void. Your body wasn't trembling. And open were your eyes, accelerating without tension, to fall hastily into sleep. Precious is your body. Precious is your body. You're dreaming into something. Wake up feeling bleak. It hasn't felt like something. That touch wasn't deep. Your body wasn't trembling. And open were your eyes, accelerating without tension.
C'était Rigide par Rosa Anschutz.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours avec Quentin Guéot et le sujet porte sur les opérations militaires dans l'espace extra-atmosphérique.
Alors, Quentin Guéot, juste avant la pause musicale, on parlait de l'implication des acteurs publics mais aussi privés dans les activités militaires spatiales. Justement, il y a une semaine, Elon Musk a annoncé priver les Russes de leur capacité à utiliser Starlink sur le terrain. Alors, on parle de connexion non officielle, donc c'est dans le cadre des règles de la guerre, justement. Néanmoins, c'est une initiative privée. Ce n'est pas le gouvernement qui a demandé à Elon Musk de couper Starlink aux troupes russes. On sait que voilà, des entreprises ont participé à l'effort de guerre dans des conflits. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment une décision d'un homme. Est-ce que cette initiative, elle peut quand même engager la responsabilité des États-Unis, même si le gouvernement n'a pas demandé à Elon Musk de couper Starlink et de jouer un rôle dans la guerre?
C'est la grande question avec les activités spatiales de support qui permettent le support justement de conflits internationaux dans lequel l'État qui fournit les activités spatiales, n'est pas parti. Donc là, on a un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Au sens des conventions de Genève, c'est un conflit international armé. Conflit armé international. Et les États-Unis fournissent des moyens de support spatiaux, entre autres via Starlink, via SpaceX, avec la méga-constellation Starlink. L'État, les États-Unis, restent responsables pour les activités spatiales des acteurs privés états-uniens, donc de SpaceX, dans l'espace. Donc si Elon Musk décide de couper le réseau à la Russie, les États-Unis sont responsables pour cette coupure de réseau. Qu'elle soit d'ailleurs à la Russie ou à l'Ukraine, au début du conflit, il y a une rumeur qui dit qu'Elon Musk aurait coupé le réseau à l'Ukraine pour éviter une escalade de la guerre en Troisième Guerre mondiale. Donc ça pose évidemment des questions de... On donne en fait un pouvoir énorme à un acteur privé, qui est une personne. Ça questionne quand même sur la souveraineté des États, tant l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. Donc aujourd'hui, oui, les États-Unis restent responsables pour toute activité privée dans l'espace.
Exactement. Aujourd'hui, la place d'acteurs privés dans ces opérations, est-ce qu'elle pose problème? Est-ce qu'on voit une recrudescence de ce genre d'initiative avec une croissance d'acteurs privés qui prennent part à des opérations militaires?
Alors, en théorie, ça ne pose pas problème d'un point de vue souveraineté parce que l'État est censé garder le contrôle de ces acteurs privés. En France, par exemple, on a la loi sur les opérations spatiales de 2008 qui a beaucoup évolué avec le temps, qui demande tout un tas d'autorisations pour justement permettre aux acteurs privés français d'opérer des activités spatiales dans l'espace. Les États-Unis ont l'air d'avoir du mal à contrôler Elon Musk. Mais ça, c'est le narratif public. Enfin, c'est le narratif dont on a accès sur Internet, sur les réseaux. Un réseau, entre autres, qui appartient à Elon Musk. Donc, c'est assez difficile de savoir le vrai du faux. Et par exemple, pour la coupure de courant, enfin, la coupure de réseau pour les Russes, on ne sait pas si finalement le Pentagone, derrière, n'a pas demandé à Elon Musk de couper le réseau. Et finalement, est-ce que c'est Elon Musk qui est en train de se construire une légende en se montrant comme un héros auprès des Ukrainiens? Ou est-ce que finalement, derrière, c'est les États-Unis qui ont vraiment demandé? Enfin, c'est un peu dur de faire la part des choses dans ce type de situation. Mais dans tous les cas, ça pose la question de un homme a un pouvoir absolument énorme en cas de conflit international qui utilise des opérations spatiales dont SpaceX.
Et si les États-Unis sont responsables, on peut se poser la question de l'intérêt pour le Pentagone de faire semblant de ne pas être au courant et de montrer qu'il serait dépassé par un homme.
Effectivement, on peut se poser la question de l'intérêt.
Parce que qu'est-ce qu'ils encourent en tant qu'État si effectivement Elon Musk provoquait... Là, en l'occurrence, ça a pu avantager l'Ukraine. Mais si ça avait produit quelque chose, je ne sais pas, qui était en défaveur d'une alliance, etc. Qu'est-ce qu'on aurait demandé aux États-Unis de faire pour compenser, pour faire amende honorable?
Alors, tant que les États-Unis fournissent un service lors d'un conflit armé, sauf s'il y a un contrat, avec un État, par exemple avec l'Ukraine, les États-Unis auraient dû rembourser, on va dire. Alors comment évaluer ça en termes de pertes matérielles, en termes de pertes humaines, je ne sais pas, auraient dû rembourser. Mais en dehors d'un contrat, aucun État n'a l'obligation de fournir une assistance militaire, sauf dans le cadre de certains traités, comme par exemple le traité de l'OTAN, traité de l'Atlantique Nord, où les États membres doivent intervenir si jamais un des autres États est attaqué. La conséquence la plus grave, on va dire, c'est que la Russie considère les États-Unis comme État partie au conflit armé international. Et à partir du moment où les États-Unis participent au conflit, la Russie pourrait, selon leur narrative de État persécuté, pourrait attaquer les États-Unis. Et c'est une logique qui est assez intéressante. La majorité de la doctrine considère que fournir des activités de support ne fait pas participer l'État directement au conflit. En revanche, il y avait tout un débat il y a quelques mois sur la fourniture de missiles à longue portée à l'Ukraine pour attaquer la Russie vraiment loin derrière la ligne de front. Le problème, c'est que ces missiles, ils sont pilotés par géolocalisation. Et donc, la Russie avait dit, mais si jamais les États-Unis fournissent ces missiles, les États-Unis devront piloter les missiles. Et donc là, on n'est plus sur la simple fourniture de télécommunications, on est sur vraiment la fourniture de missiles et finalement la fourniture de services pour frapper directement la Russie. Et donc ça veut dire qu'on peut potentiellement ouvrir un conflit entre la Russie et les États-Unis.
Et donc on pourrait aller sur une mécanique, non pas des alliances comme à l'époque finalement, mais du simple fait de la propriété du matériel, ça les engage dans le conflit. Mais actuellement, il n'y a pas de consensus en réalité, c'est la Russie qui le pose comme ça.
C'est la Russie qui le considère, mais ça a quand même eu un effet sur les alliés occidentaux de l'Ukraine, parce que pendant très longtemps, enfin pendant quelques mois en tout cas, il y a eu ce débat de est-ce qu'on fournit des missiles à longue portée à l'Ukraine. Il y avait même eu des conditions qui avaient été données au début, on fournit des missiles à longue portée, mais il ne faut pas attaquer trop loin derrière la ligne de front. Il faut que ça reste vraiment sur le cœur du conflit, donc la frontière entre l'Ukraine et la Russie. On peut poser la question de cette aide un peu on vous aide, mais par contre, attention, il ne faut pas non plus gagner trop vite la guerre. On vous aide, mais il y a des conditions à respecter. C'est nos armes, après tout. Ça pose quand même la question de l'amplitude de l'aide fournie par les pays occidentaux à l'Ukraine.
Qui peut être ralenti par cette stratégie parce que le droit est flou, justement, à cause de ce flou sur la responsabilité.
C'est ça. En fait, on ne sait pas exactement ce qui permettrait de déclencher une réponse militaire de la Russie. Alors, ça, c'est le droit. Et Mathès, justement, essaie de faire un peu la lumière sur ces conditions floues de est-ce que quand on est attaqué sur Terre, on peut se défendre dans l'espace ? Parce que la Russie aussi avait menacé d'attaquer les satellites occidentaux pour justement empêcher la fourniture de services militaires. Si on est attaqué dans l'espace, qu'on peut répondre sur Terre ? Et si jamais on fournit des activités support, est-ce qu'on fait partie du conflit armé international ? Ça, c'est un aspect, l'aspect juridique, mais après, il y a l'aspect purement pratique, diplomatique, militaire. Si jamais la Russie dit qu'ils vont attaquer parce que les États-Unis fournissent des missiles longue portée, peu importe le droit finalement, on sait très bien que la Russie s'affranchit du droit, on sait très bien que les États-Unis s'affranchissent du droit aujourd'hui. Donc finalement, l'aspect juridique, c'est bien et c'est important de le rappeler. C'est important de rappeler qu'il y a des règles et ça permet à la France, entre autres, qui essaye de respecter le droit dans la plupart des situations, de rappeler qu'il y a un cadre juridique et qu'on ne peut faire n'importe quoi. Maintenant, ça reste parfois secondaire quand on parle de conflits militaires.
Alors, tout à l'heure, on abordait la hausse de la militarisation de l'espace. En 2010, la moitié du budget spatial mondial était consacrée au domaine militaire. En 2023, la Space Foundation, qui est une organisation américaine à but non lucratif qui fait la promotion de l'industrie spatiale, relevait, elle, dans son évaluation annuelle, une hausse de 18% des dépenses spatiales militaires mondiales. Pourquoi l'espace se militarise aussi rapidement ces dernières années ? Est-ce que c'est une impression ou véritablement il y a eu une accélération sur les 3-4 dernières années ?
Là, je pense qu'il y a une accélération. Et je pense que l'accélération est aussi provoquée par le contexte géopolitique terrestre. S'il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine, les autres États vont forcément chercher à plus se défendre. Et on l'a vu en Europe avec un plan de défense à plusieurs centaines de milliards. On l'a vu aux États-Unis. Donc, s'il y a plus de guerres sur Terre, plus de conflits sur Terre, on va forcément chercher à développer nos capacités militaires. Et ça passe entre autres par l'espace. Je pense aussi qu'il y a des capacités, des nouvelles technologies qui sont aussi disponibles aujourd'hui. Et donc, ça permet de développer plus de capacités militaires pour moins cher. Et donc, c'est une question d'opportunité finalement, comme souvent. Si l'État peut le faire, l'État va le faire.
Donc aujourd'hui, on peut considérer que la géopolitique actuelle terrestre est en train de se transposer dans l'espace. Donc que les États sont en train de s'armer en conséquence dans l'espace. Est-ce qu'en France, ça impacte par exemple les formations chez les militaires dans l'armée ? On est en train de se préparer à ça ?
On se prépare à ça. Souvent, on utilise la notion de miroir. L'espace extra-atmosphérique est le miroir de la géopolitique terrestre. Je considère que c'est plus une continuité. Parce que la géopolitique terrestre a cette forme-là aujourd'hui, on n'est plus dans une coopération internationale, mais dans une situation conflictuelle permanente, militaire ou économique ou diplomatique ou autre, c'est la même situation. Parce que les États transposent leur comportement, ont les mêmes comportements dans l'espace pour justement être cohérent avec la situation terrestre. Et en France, on se prépare, on a une forte volonté militaire spatiale en France, on a le commandement de l'espace, aujourd'hui on a l'armée de l'air et de l'espace, donc on forme aujourd'hui les militaires français à réagir en cas de conflit spatial. On a les capacités aujourd'hui de reconnaître quand on est approché dans l'espace, quand on est brouillé dans l'espace. Les satellites français sont très souvent brouillés par des satellites étrangers, par exemple russes ou iraniens, surtout russes. Donc on a cette capacité aujourd'hui militaire spatiale en France et c'est ce qui fait de la France aujourd'hui une puissance spatiale à part entière. Et on essaye de maintenir notre indépendance spatiale par rapport aux autres États, dont les États-Unis.
Et alors certes, c'est en train de s'accélérer dans l'espace, la militarisation, mais c'est aussi un paradoxe comme milieu, puisque l'espace, c'est un lieu de coopération internationale scientifique. On pense à l'ISS, la Station Internationale Scientifique. Par exemple, il y a des scientifiques russes, américains, français qui collaborent. Demain, si les conflits s'accélèrent, est-ce que vous pensez que cette collaboration spatiale, elle pourra continuer ? Notamment quand on pense que, par exemple, la dernière équipe qui a été envoyée le 11 février avec Sophie Adnaud, qui est une astronaute française, elle a été envoyée grâce à une technologie américaine depuis la NASA en Floride. Pourtant, il y a plusieurs nationalités. Comment on va faire pour préserver cette collaboration tout en étant en train de s'affronter ou de s'armer les uns contre les autres dans l'espace, en orbite ?
la collaboration dans l'espace extra-atmosphérique, elle a toujours été emblématique parce qu'on a réussi à... Enfin, à la fin de la guerre froide, on a réussi à faire collaborer quand même les deux ennemis du monde, URSS et États-Unis, avec la Station Spatiale Internationale. Donc, les projets spatiaux étaient quand même, normalement, permettaient de faire abstraction de la situation géopolitique terrestre. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et en fait, les États se permettent de faire des alliances, même dans l'espace. Donc, on a un bloc occidental avec les États-Unis et des partenaires autour des accords Artemis. On a... Bon, la Russie qui est un peu perdue avec son conflit, mais qui est plutôt alliée avec la Chine, et un projet de station lunaire chinoise qui est ouverte à d'autres États. Donc on considère que le Sud global est plutôt la cible de ce nouveau projet, enfin ce projet chinois un peu russe. Mais finalement, on va avoir des conflits dans l'espace entre des blocs, encore une fois, comme on a des conflits sur
Terre. On va recréer les blocs.
C'est ça, on assiste un peu à une création de nouveaux blocs, avec des acteurs différents dans ces blocs, mais on a quand même une logique de blocs.
Merci beaucoup. Merci Quentin Guéot.
Merci.
Eh bien merci Quentin Guéot, merci Mathilde, et on continue avec le Flash Info présenté par Thierry. Bonjour Thierry.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Bonsoir Fabien et bonsoir à tous. À retenir dans l'actualité de ce mercredi 25 février, l'Assemblée nationale s'était prononcée à nouveau aujourd'hui sur la création d'un droit à l'aide à mourir. Cette réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années a été largement adoptée en première lecture. La proposition de loi sera étudiée par le Sénat. Le musée du Louvre change de tête. Au lendemain de la démission de Laurence Descartes, Christophe Leribaud, actuel président du château de Versailles, a été nommé à la tête du musée le plus visité au monde. Il aura pour priorité de renforcer la sûreté et la sécurité du bâtiment, des collections et des personnes, de restaurer un climat de confiance et de porter avec l'ensemble des équipes les transformations nécessaires au musée. Allez, en cette période de vacances scolaires, on jette un œil aux sorties ciné de ce mercredi. Pour sourire, je vous conseille de voir Chers parents avec Miu Miu et André Dussolier, qui incarnent des parents gagnants au jackpot, mais qui ne comptent rien partager à leurs enfants. Pour sursauter de vos sièges, Scream 7 débarque avec le retour du maléfique Ghostface et l'héroïne Sydney Prescott qui doit replonger dans ses démons pour protéger sa famille. Et enfin un documentaire Athos, au cœur de la patrouille de France, une immersion dans la préparation millimétrée des pilotes d'élite entre rigueur, solidarité et accident bouleversant. Trois ambiances, trois univers, à vous de choisir votre séance. Football, le Paris Saint-Germain affrontera ce soir au Parc des Princes l'AS Monaco en match retour des barrages de la Ligue des Champions. À l'aller, les Parisiens s'étaient imposés 3 buts à 2. Le vainqueur se qualifiera pour les huitièmes de finale de la compétition. Enfin, la météo, le temps prévu pour demain jeudi à Paris et en Ile-de-France. Une très belle journée printanière est attendue dans la capitale ainsi qu'en région, avec un temps largement ensoleillé, pas de pluie et une douceur remarquable pour la saison. Côté température, comptez autour de 10 degrés au réveil et jusqu'à 18 l'après-midi. Fin de ce flash, 19h, bientôt 35 minutes. Merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris. Avec la suite de votre matinale avec Fabien et toute son équipe, très bonne soirée et à bientôt.
Merci Thierry, on fait une petite pause musicale avec Sonar par Ishiko Aoba.
Ko ga doko na no ka
C'était Sonar par Ichiko Aoba.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
Et Nordine est avec nous. Et de quoi vas-tu nous parler ?
Alors aujourd'hui, je vous propose dans la chronique Actu Philo de vous parler d'actualités politiques et de les analyser à travers une théorie philosophique.
Eh bien vas-y, on t'écoute.
Alors aujourd'hui, parlons de 49.3 et de Montesquieu. Comme vous le savez sûrement, fin janvier, le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait passer de force le projet de loi de finances pour 2026 en utilisant le 49.3. Il avait promis en octobre 2025 de ne pas recourir à cet article, de laisser les députés débattre et faire leur travail. Mais finalement, le Premier ministre a préféré mettre fin aux discussions parlementaires et utiliser cet article très contesté de la Constitution. Les députés du RN et LFI avaient essayé de déposer des motions de censure, mais grâce à l'abstention du Parti Socialiste, celles-ci n'ont eu aucune chance d'aboutir. Le budget pour 2026 est donc définitivement adopté, à nouveau par la force, sans débat ni vote. Le 49-3 est une manœuvre gouvernementale de plus en plus habituelle. Depuis 2022, pas moins de 31 articles 49-3 ont été utilisés pour faire passer des textes sans passer par le vote des députés. Face à cette banalisation et cette généralisation du 49-3, posons-nous cette question. L'exécutif monopolise-t-il le pouvoir au détriment du législatif ? Assistons-nous à un dangereux déséquilibre des pouvoirs en France ? Le philosophe Montesquieu, dans son livre « De l'esprit des lois », publié en 1748, a théorisé le principe d'équilibre des pouvoirs comme étant la seule manière d'éviter l'émergence d'un régime autoritaire, voire despotique. Selon lui, le pouvoir législatif, c'est-à-dire le fait de voter des lois, le pouvoir exécutif, qui est l'exécution de la loi, ainsi que le pouvoir judiciaire, l'application de la loi dans des cas particuliers, doivent être exercés dans des organes distincts et indépendants afin d'éviter l'autoritarisme et garantir les libertés politiques. Si un des trois pouvoirs se cumule à l'autre, voire pire encore, si les trois pouvoirs sont réunis en un seul, alors l'État devient inévitablement despotique. Un des déséquilibres du pouvoir les plus dangereux que Montesquieu décrit est celui où l'exécutif, le gouvernement, accapare le pouvoir législatif, celui de l'Assemblée. Il écrit « Lorsque dans la même personne ou dans le même corps, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. » Ainsi, ce qui menace aujourd'hui notre démocratie, c'est que l'Assemblée, censée voter des lois qui représentent la voix du peuple, ne soit plus en mesure de prendre des décisions législatives, tandis que le gouvernement, l'exécutif, monopolise le pouvoir législatif en imposant ses réformes et ses budgets à coup d'ordonnances et de 49-3. Voilà, si vous avez apprécié cette chronique, rendez-vous le vendredi 6 mars 18h dans mon émission Penser le Monde, où j'analyse l'actu politique à travers la philosophie. Et dans le prochain épisode, j'accueillerai le prestigieux invité Juan Branco. À très vite.
Et on en profite pour se faire un petit peu de publicité en passant, hein. Merci Nordine, vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris et maintenant c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et aujourd'hui, dans le Zoom, nous accueillons Victor Kirillov, l'auteur et metteur en scène de « Maintenant, je n'écris plus qu'en français ». Il se produit au théâtre de Belleville. Bonjour Victor.
Bonsoir.
Et c'est Adèle qui nous le présente. Bonjour Adèle.
Bonjour Fabien, bonsoir Victor. Et merci d'être avec nous ce soir.
Merci de m'avoir invité.
Dans ce seul en scène, tu racontes ton histoire. Le 24 février 2022, tu es à Moscou, alors étudiant en théâtre, quand tu apprends que l'Ukraine, ton pays, est envahie par la Russie. Tu confies aussi en public tes questionnements et les profonds bouleversements qu'a provoqué la guerre dans ta vie. Comment t'es venue l'idée de faire cette pièce ?
Bah déjà, c'était à l'époque, je me demandais est-ce qu'il y avait déjà une fiction, un livre ou un film qui expliquait à peu près la même expérience que j'ai eue, c'est-à-dire l'expérience de quelqu'un qui est allé dans un pays dont il était passionné par sa culture et qui voulait y rester. Et qui se retrouve déchiré quand ces pays-là, où il est allé, annonce la guerre à son propre pays, enfin, son pays natal. Et donc, j'ai pas trouvé à l'époque un bon exemple qui me correspondait. Et j'ai eu un très bon conseil d'écrire ma propre histoire.
Pourquoi c'était important de partager ton histoire justement?
Parce que quand on entend l'Ukraine, on parle tout de suite de... En tout cas moi, d'ici, en France, j'ai l'impression que quand on parle de l'Ukraine, on a tout de suite un certain mur médiatique des infos qu'on voit tous les jours, et des images, du nombre de pertes, les soldats, etc. Et ça crée une sorte de distance qui montre à la fois un conflit, mais un peu en mode général, et comme si c'est bien loin et ça touche pas vraiment la réalité française. Sauf que le problème, c'est que moi, je le vis tous les jours. Enfin, ces murs médiatiques, je les sens un peu projetés sur moi quand je dis que je viens d'Ukraine. Et l'envie de raconter ma propre histoire, c'était de justement casser ces murs un peu et de dire que j'avais ma vie qui n'était pas mieux, pas pire que les vôtres. Et qui était assez comme la vôtre, en fait. Et partager justement mon expérience personnelle qui est un peu universelle à la fois, parce qu'on est tous humains. Voilà.
Et pourquoi t'as voulu faire ça en seule en scène, être seule sur scène? Parce que dans ta pièce, tu joues parfois plusieurs personnages. Est-ce que c'était vraiment une volonté de faire ça tout seul, ou est-ce que t'aurais peut-être voulu faire ça avec d'autres comédiens aussi?
Non, j'ai trouvé qu'il n'y a que moi qui peux raconter mon histoire.
Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ton spectacle, il s'appelle « Maintenant, je n'écris plus qu'en français ».
Alors, c'est assez marrant comme... Enfin, c'est pas marrant, c'est juste en fait. C'est que, comme vous savez peut-être, l'Ukraine, c'est un pays post-soviétique. Et nous, tout comme les pays, je sais pas, post-colonial des pays occidentaux, enfin, on a une langue russe qu'on hérite depuis l'occupation russe, depuis des siècles. Un peu comme le français ou l'anglais en Afrique, quoi. Sauf que moi, dans ma vie, avant en tout cas 2022, je ne l'ai jamais perçu comme la langue du colonisateur. C'était ma langue dans laquelle j'ai parlé avec ma famille, puisque je viens du sud de l'Ukraine, de la ville qui s'appelle Odessa, et qui était assez importante dans la culture russe notamment, et qui était connue d'être russophone, même si aujourd'hui ça change. Et voilà. Et donc, moi, j'ai grandi dans un système où il y avait deux langues qui coexistaient. Ça n'a jamais posé problème à personne, en tout cas avant la guerre. Et voilà. Quand ça est arrivé, c'est la question linguistique, c'est très brûlante, une question très brûlante dans la société ukrainienne. Et qu'est-ce qu'on en fait avec cette langue russe qui était omniprésente dans notre vie. Et il y a beaucoup des Ukrainiens qui choisissent de ne plus parler russe du tout. Et c'est leur choix personnel. Et moi, je crois que, pareil, choisir sa langue, c'est comme une religion. On peut pas... Enfin, c'est très personnel, je trouve. Et moi, je voulais pas... vu que je suis devenu réfugié ukrainien en France, je voulais pas choisir entre les deux. J'ai choisi le français. Voilà.
Et est-ce que pourquoi faire ce spectacle en France? Est-ce que tu voulais aussi transmettre ton message particulièrement aux Français et du coup à la culture française?
Oui, au départ même, je me suis dit que je l'ai écrit comme une raison inconsciente. Je l'ai écrit pour mes potes français, pour leur raconter un peu comment je vivais avant de venir dans ces pays et avant de devenir qui je suis aujourd'hui. Et oui, c'est une pièce écrite, je dirais, d'un étranger, pour les étrangers, dans une langue étrangère. Et je trouve que c'est une bonne formule.
Est-ce que justement, ça a été un challenge d'écrire dans une langue étrangère, comme ça?
Au moment quand je l'écrivais, cette pièce, ça faisait déjà presque 2 ans que j'étais en France. Oui, 2 ans. Et avant de venir en France, j'ai jamais appris les français. Mais je me suis beaucoup accroché à cette langue parce que, voilà, on vit en France, il faut l'apprendre déjà. Et deuxièmement, c'est que c'était une sorte de refuge pour moi de ne plus m'associer à mes deux langues maternelles. Et je l'écris directement en français, mon texte, sans trop réfléchir. Et après, enfin, bien sûr que j'ai passé plusieurs mois à retravailler le texte parce que c'est pas évident, quoi. Mais enfin, je veux dire qu'il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, quoi. Et voilà. Mais c'était pas vraiment un challenge. Enfin, vu que challenge, c'était d'apprendre les français. Oui. Une fois que tu l'as appris et que tu vis en France, enfin, c'est plus un challenge.
Tu explores beaucoup la question de l'identité dans ton spectacle et de son rapport avec la nationalité. Du coup, je voulais savoir en quoi la guerre, elle a remis en question ton identité.
Bah déjà, je me suis senti ukrainien. Et vraiment ukrainien. Parce que justement, la question de la langue russe, vu que tu parles cette langue, tu te demandes est-ce que peut-être je suis russe. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille qui adorait la littérature russe et j'ai grandi un peu sur les romans de Gogol, de Dostoïevski, de Tolstoï. Et justement, quand tu te baignes dans cette culture, tu te demandes est-ce que je suis pas russe par hasard. Mais quand ça est arrivé, je me suis senti très vite, j'ai senti la grande différence parce que les bombes sont tombées à Odessa et pas à Moscou. Et ma famille était à Odessa et pas à Moscou. Et j'avais plus d'aucune question, plus du tout, rien du tout. Et je suis ukrainien.
Et du coup, ce rapport à l'art, à la culture, tu l'évoques un petit peu dans la pièce. Tu parles du rôle de l'art et de la culture dans nos vies. Et donc, je voulais te demander aujourd'hui, c'est quoi pour toi le rôle de l'art dans ta vie ?
Waouh ! Un peu deep, mais oui, enfin, l'art pour moi, ça a toujours été le moyen d'expression, d'explorer le monde. Et même si j'ai tout de suite mis l'art sur une étagère assez haute dans ma vie, comme si c'était un peu le sens de ma vie, la mission la plus sacrée. Et même à un moment, j'étais très déçu avec la guerre. C'est que la culture russe, qui est très prestigieuse et très comme une lumière dans notre humanité, et que je trouvais que en fait la culture russe, elle a rien changé chez les Russes et dans la Russie, hein, et que malgré Tchekhov, malgré Pushkin et Dostoïevski, les Russes ont tué beaucoup de civils, ils ont commencé une guerre sans justification, rien du tout, et j'étais vraiment beaucoup déçu de l'art et de la culture. Je me demandais à quoi il sert, en fait, tout ça. Et aujourd'hui, je sais pas, je me pose plus de questions. Je le fais parce que je fais. Et parfois, il n'y a pas besoin de réponse.
D'accord, merci beaucoup. Et pour finir, est-ce que tu as des projets à venir et où on peut te voir prochainement ?
Je reprends mon spectacle au Théâtre de Belleville en avril pour tous les mois, pour 12 dates. Et si jamais vous ne pouvez pas venir en avril, c'est pas grave, vous venez à Avignon au Théâtre 11. Enfin, dans tous les festivals d'Avignon, on vous attend. Maintenant, je n'écris plus qu'en français. Merci.
D'accord, mais merci beaucoup d'être venu et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et donc, on te retrouve donc au Théâtre de Belleville en avril, ou au Festival d'Avignon. Merci beaucoup.
Merci.
Eh bien, merci Victor Kirillov, merci Adèle. Et on écoute tout de suite Donali par Jaco Pastorius. Thank you.
C'était Donali par Jaco Pastorius.
La matinale de 19h.
Et puis, on va terminer cette matinale, excusez-moi. Et c'est Finn qui est avec nous pour terminer en beauté cette matinale et qui va nous parler d'un fait d'actualité passé inaperçu. Eh bien, c'est à toi.
Oui, en effet, Fabien, le 23 janvier dernier, le producteur, chanteur, rappeur, designer, influenceur Pharrell Williams recevait la Légion d'honneur des mains du président Macron. Événement mineur, me direz-vous, et pourtant il suffit de tirer sur les coutures de l'apparence pour que se révèle une nébuleuse politique délétère à plus d'un égard. En effet, il y avait du beau monde à l'Élysée. Pusha T, Future, le ressuscité Quavo, d'une part, un ensemble fidèle dont la présence n'a étonné personne, mais d'autre part, en marge de la crème épaisse du hip-hop contemporain, se dessine au fil des photos de presse la figure d'un bonhomme dont la présence, cette fois-ci, en a étonné plus d'un. Qu'est-ce que foutait le multimilliardaire Bernard Arnault à la cérémonie ? Répondre à cette question revient à acter avec amertume l'effondrement artistique et politique de Pharrell Williams. Les connivences de la moitié historique des Neptunes avec l'oligarque français sont maintenant bien connues. En 2023, Williams est en effet nommé directeur créatif chargé des collections hommes chez Louis Vuitton. Dans un hip-hop où depuis l'événement Kanye West, il importe de traduire sa musique en un récit de soi, gravitant dans un univers cinématographique et vestimentaire, cette nomination est une consécration. Par cette prise de fonction, Williams parachève l'image d'un créateur total au fondement de plus d'œuvres de hip-hop explicite et de R&B sensuel que cette chronique ne me permettrait d'en énumérer. Pourtant, dit en fait Williams, j'échappe moi-même à cette explicite et cette sensualité. Je suis le marionnettiste qui infléchit les tendances non seulement musicales, mais dorénavant aussi vestimentaires. Pour Louis Vuitton, Williams est une aubaine. Alors que traditionnellement les grandes maisons de couture se distancient avec mépris de l'appropriation de leur image et de leur création par le hip-hop, aujourd'hui elles ne rougissent plus d'embrasser cette main tendue si cela permet d'attirer une clientèle nouveau riche. À cet égard, Williams semble être le soldat parfait. Il est suffisamment crédible aux yeux du hip-hop, sans perdre en respectabilité bourgeoise aux yeux de Louis Vuitton. Alors, on a du mal à déterminer qui est le suppôt de qui. Reste que pour Williams et Arnault, la situation est gagnante-gagnante, aussi bien du point de vue de l'image que du pactole que l'un ramasse grâce à l'autre. Venant d'Arnault et même de Williams, toute cette supercherie ne surprend guère. Le Virginien à la peau d'ange multiplie depuis une décennie les sorties violemment dépolitisantes. Il est allé récemment jusqu'à littéralement affirmer sa haine du fait politique même, considérant, je cite, que « quand on choisit un côté, on soutient implicitement la division ». Si je concluais en disant que le hip-hop se fourvoie en copinant avec les vampires de la haute couture, et que Williams n'est plus l'insaisissable instituteur de tendance qu'il pense être, j'en dirais déjà trop. Qui suis-je, jeune bourgeois blanc, pour juger des circonvolutions capitalistes d'un genre musical qui en première instance ne m'est pas destiné ? Non, je m'en tiendrai à un mot de la fin soufflé par une amie perspicace, c'est plus généralement la pop culture qui a changé. Si de nos jours, ceux qu'on appelle encore nos plus grandes rockstars se prennent pour Dieu le Père parce qu'un forcené présidentiel leur a piqué un pins à la redingote, c'est que définitivement, il y a un problème avec notre rock'n'roll.
Eh bien, merci Fine, il est presque 20h, la matinale est terminée. Merci à Quentin Guéo, merci à Mathilde pour l'interview, merci à Victor Kirillov, merci à Adèle pour le Zoom, merci à Thierry pour le Flash Info et merci à Nordine et Fine pour leurs chroniques respectives. C'était Joey à la réalisation et Odéjane à la coordination et conception de cette matinale. Tout de suite, on retrouve le monde zygomatique. Passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris.